Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et 7 années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi ? Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh bien, c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir au micro l'artiste Robin Plus. Je termine mon périple marseillais de l'année à ses côtés et avec une grande joie, car depuis le début de cette aventure de podcast, son nom était en haut de la liste. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de photographie et notamment la place de la fête dans son travail. On a aussi parlé de l'ENSP, l'école de la photographie de Arles. On a parlé de l'après-diplôme, de Wolfgang Tillmans, de plagiat et des attentes qu'ont les autres et qu'on se crée en tant que jeune artiste. Bref, un bien joli programme. J'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à partager ou m'envoyer vos retours. J'aime bien savoir si après un an déjà de podcast, ça vous plaît toujours. Sur ce, j'ai bien envie de vous dire bonne écoute. Robin, comment ça va ?
Salut Marion, ça va bien et toi ?
Ça va super, un peu fatiguée parce que en ce moment c'est un peu la folie, mais je suis hyper contente d'être chez toi, dans ton appart. On est à Marseille en ce moment, donc c'est moi qui habite Paris, je t'avoue que ça fait du bien de quitter cette ville de fou pour un peu plus de, j'allais dire de soleil, pas du tout, ça caille de ouf, il y a plein de vent, mais en tout cas c'est trop trop cool. Merci d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi. Je suis hyper contente que tu aies accepté parce que ça fait hyper longtemps que je suis ton travail, surtout sur Instagram, je dirais. Ça fait méga longtemps que je te suis. Et aussi parce que je sais pas pourquoi, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure avant de commencer cet épisode, mais j'avais grave l'impression que je te connaissais, mais je ne savais pas d'où exactement et je ne savais pas comment. Du coup, je trouve ça hyper, hyper marrant qu'on arrive enfin à se rencontrer et à savoir où est-ce qu'on s'est un petit peu déjà vu. En tout cas, moi, je m'en souviens. Du coup, c'était à Toulouse. Voilà.
Pour la fête.
Pour la fête. Mais bien sûr, c'est tout le temps pour la fête. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre des personnes, genre, mais en fait, on s'est déjà vu en soirée. Oui, tout à fait. Mais voilà. Par où commencer ? Tu es photographe, artiste, plasticien ? On va dire ça comme ça ? Est-ce que c'est comme ça que tu te décris, en général ?
Je me décris souvent d'abord artiste, ouais. Parce que maintenant, je développe d'autres médiums. Mm-hmm. Mais c'est vrai que l'image, c'est mon médium principal.
Ouais.
Du coup, l'image fixe, la photographie, mais aussi l'image vidéo,
ouais.
Plus récemment. Et après, aussi, des fois, j'écris. Parce que pour moi, l'image, en fait, elle peut être de différentes manières, quoi. Une image, ça peut être une histoire qu'on raconte, un récit, une description. Mm-hmm. Et du coup, on se fait une image dans sa tête. Ou une photographie, évidemment.
Évidemment.
Et la vidéo, parce que la manière dont je pratique la vidéo, quand même, s'apparente énormément à la photographie. C'est des vidéos que je fais sur trépied. Mm. Des vidéos assez fixes, finalement.
Ouais.
Voilà, avec une action.
Moi, je me souviens, ce qui m'avait beaucoup attirée avec tes photos, c'est parce que je les trouvais très fortes. Tu avais toujours des sujets qui étaient, on va dire, imposants. Et du coup, je trouvais que dans tes photos, il y avait quelque chose de très impactant, très sensible aussi, très queer. Et j'avais l'impression, en fait, qu'avec les images qui se retrouvaient devant moi, j'avais une sorte de petite claque d'une réalité, mais pas forcément la réalité que moi, je vivais tout le temps dans mon quotidien. Et du coup, ça, en tout cas, moi, je l'ai trouvée assez marquante et très belle. Donc, je suis hyper contente qu'on ait l'occasion d'en parler. Alors, la toute première question, souvent, quand je commence les épisodes, c'est comment est né ton intérêt pour l'art ? Genre, comment ça a commencé chez toi, ton envie de faire de l'art ou peut-être la photo, et comment tout ça a commencé ?
Alors, je n'ai pas un parcours classique.
Mmh.
Dans le milieu de l'art. En fait, tout d'abord, ma première approche dans l'art, ça a été par la danse.
Mmh, ok.
Quand j'ai eu l'âge de 6 ans, j'ai fait de la danse classique. J'ai commencé la danse classique. Voilà, mes parents, comme tous parents, veulent qu'à un moment leurs enfants fassent un sport. Donc j'ai essayé plein de sports. Évidemment, tous les sports avec des balles, ça n'a pas marché. Tout ce qui était rond, non. Ensuite, je crois qu'une fois, j'ai essayé du judo. Même si le judo, c'est plutôt censé être non violent. Ça marchait pas. J'aimais bien les tatamis, hein, je trouve ça très beau. D'ailleurs, j'aimerais bien faire des photos sur un tatami, je pense, un jour.
Les tatamis bleus.
Ouais.
Incroyable. Ce bleu-là, magnifique.
Tu sais, quand t'as des damiers de différentes couleurs, c'est souvent.
Ça, je sais pas.
T'as un sol de tatami et des fois, t'en as un bleu ou un rouge qui est perdu parce que la salle de sport ont dû le changer. Ils s'en foutent de la couleur, quoi. Donc, ça aurait pu, mais non. Et puis, je crois qu'un jour, ma mère ou mon père, ils ont dû voir un cours de danse et puis ils m'ont dit « Ah, est-ce que tu veux tester ?» Moi, j'ai dit oui. Et puis, ça a avéré que ça m'a plu et que j'étais sérieux. Et des garçons qui font de la danse classique, ça court par les rues.
Non.
Donc forcément, les profs...
Elles sont en adoration devant
toi. Exactement. Tu es le centre. Tu es le centre.
Oh my God. Tu as forcément genre le rôle principal du seul garçon.
Exactement. Ouais.
Donc, c'est pas mal.
Ouais. Et donc, j'ai fait de la danse de l'âge de 6 ans jusqu'à mes 18 ans.
Ah ouais.
Classique. J'ai fait l'école de l'Opéra de Paris quand j'étais petit.
Oh,
un an.
Stylé.
J'étais un petit rat. Bon, je ne suis pas resté. Ils ne m'ont pas gardé. Au bout d'un an, ça a été un peu un drame dans mon enfance. Parce que voilà, tout était fait pour que je sois un danseur. Mais j'ai continué. Donc après, à l'âge de 11 ans, je suis allé en conservatoire de danse à Toulouse.
Okay. Mais du coup, tu es originaire d'où ?
Alors, je suis né dans le 93 au Lila.
Okay.
Mais à l'âge de 3 ans, mes parents, ils ont déménagé dans le sud-ouest.
Okay.
Donc, en fait, je me suis jamais... Enfin, ils ont déménagé à Pau. Je me suis jamais senti palois, mais je me sens du sud, ça c'est sûr.
Je viens d'apprendre qu'on disait palois pour les gens de Pau.
Et ouais.
C'est une grande première, merci pour cette information.
Ouais, donc je me sens du sud, ouais. J'ai jamais habité à Paris.
Ok, ah bah oui.
J'ai 32 ans et c'est fait que, je sais pas, ça n'a jamais arrivé. Limite maintenant j'ai l'impression que c'est un statement pour moi. Je pense que des fois, ça serait plus simple que j'habite à Paris pour la photographie et pour gagner des sous. Mais à la fois, je ne sais pas, je me sens plus
à l'aise. Non, ici. Mais je comprends. En même temps, c'est bien le sud. Moi, j'avoue, j'en ai un petit peu marre du sud. Mais moi, je suis de Bretagne. Du coup, tu vois, genre, je suis très... Ça me fait chier d'habiter si loin de mon chez-moi, de mon fief. Je suis très chauvine. Comme tous les Bretons. Voilà. Et du coup, genre, la danse avait une énorme part, je suppose, dans ta vie en général. Mais comment est venue, du coup, l'image ?
En fait, c'est venu plus tard. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai fini mes études au conservatoire. Et à ce moment-là, c'était l'époque de MySpace. Voilà, donc c'était entre 2005 et 2010, mais donc du coup 2007, voilà, MySpace. Je fais de la danse dans un conservatoire, donc c'est une école institutionnelle. Et l'image, elle a toujours été présente pour moi par la musique. L'image est venue par les pochettes de disques, par les magazines de pop star et tout ça. Donc l'image est venue d'abord par là. Et quand j'ai voulu terminer la danse, j'avais une frustration dans la danse parce que j'avais l'impression que c'était tellement fermé parce que c'était un conservatoire que je ne pouvais pas mélanger ma pratique et toutes les musiques que je découvrais par MySpace, tout ce qui me nourrissait visuellement, tous les clips, etc. Ouais. Et j'avais l'impression d'être enfermé. Donc j'ai décidé d'arrêter la danse. Pour moi, c'était aussi important parce que c'était quelque chose vraiment ancré dans la famille, que je fasse de la danse. Donc du coup, à 18 ans, je suis majeur. Le fait de prendre un peu ma vie en main, de décider d'arrêter, c'était aussi quelque chose de fort pour moi.
Ouais. T'avais aucune envie de continuer là-dedans
Non.
Tu ne voyais pas genre, faire une carrière là-dedans
Pendant longtemps, oui. Mais à la fin, j'en faisais tellement comme une machine parce que j'en faisais tous les jours que j'arrivais plus à avoir du plaisir en le faisant. En tout cas, je ne savais pas si ça me faisait vraiment plaisir.
Ok.
Et à partir de ce moment-là, du coup, MySpace, je voulais bosser dans la musique. c'était mes premiers festivals, mes premiers concerts, et je me suis dit ok, je veux bosser dans la musique. Et j'ai décidé du coup de partir à Lille pour faire une licence sociologie des médias, qui est en fait médiation culturelle. Mais à l'âge de 17 ans, il y a aussi autre chose qui est important, c'est que je sors avec mon premier mec, qui bossait, qui était libraire dans aux abattoirs à Toulouse, dans le musée d'art contemporain de Toulouse. Donc c'était ma première approche à l'art contemporain, parce que j'avais pas du tout eu ça dans ma famille, même si ma famille, voilà, on regardait beaucoup de films, etc. Mais on n'allait pas spécialement au musée, j'avais pas une éducation à l'art plastique. Donc je découvre ça par mon premier mec, j'ai 17 ans, et aussi je rencontre une photographe qui s'appelle Pauline Isbach, et qui, à ce moment-là, elle avait 27 ans, elle était, elle faisait l'école de la photo de Arles.
La fameuse.
Et j'étais là, waouh, ça a l'air ouf, machin. On va avec mon ex faire les rencontres. C'était l'époque ouf. En plus, c'était là où il y avait Nan Goldin qui était invité à investir Luma, où elle a invité plein d'autres photographes. Enfin, pour moi, ça a été un énorme choc artistique. Et voilà, j'avais ça en tête, mais pour moi, je me disais non, mais je serai jamais artiste. Et pendant, du coup, 6-7 ans, j'ai fait mes études dans la musique, j'ai été programmateur de soirées à Toulouse. Voilà, enfin, franchement, c'était mon chemin de bosser dans le milieu associatif musical.
Superbe soirée, soit dit en passant.
Et oui, c'est là où on s'est rencontrés.
Je m'en souviens encore. Franchement, les battles... enfin... Pour les Toulousains, moi je sais très bien, parce que mes potes qui écoutent le podcast, ils vont dire « Ah, mais de ouf mais Platinum Oops, Battle Rihanna contre Beyoncé. » Je m'en souviens encore, une de mes meilleures soirées.
Bah oui, parce qu'on sortait tout le temps avec mon groupe de potes, qui sont toujours mes meilleurs amis. Et en fait, on se faisait chier à Toulouse, on ne trouvait pas de soirée genre gay. Je dis gay parce que le mot queer, à ce moment, n'était pas répandu, c'était pas quelque chose qui était... commun en France en tout cas, et on se faisait trop chier. Du coup, on s'était dit, bon, bah, on va faire nos propres soirées où on va mettre la musique qu'on kiffe, et puis ça a trop marché.
Bah ouais, franchement, c'était un peu genre les soirées, genre the place to be, quoi. Vraiment.
Ben, on a des bons souvenirs. Et ensuite de ça, en fait, j'aime bien un peu raconter tout ça parce que ça a beaucoup de liens ensuite dans mon travail photographique et vidéo aujourd'hui. J'en avais marre de mon boulot de programmateur, c'était pas assez créatif pour moi. Le milieu de la musique quand même est un milieu qui est très macho, surtout j'étais dans les musiques électroniques, donc c'était en plein moment quand même de la techno qui revient à fond, et donc c'est quand même très masculin, je me sens pas assez, ça me frustre un peu.
À ce moment-là, tu prends pas de photos, genre c'est pas...
Je prenais des photos avec mon jetable, ensuite Olympus, mon Olympus Mew, qui est un peu l'appareil photo compact que tout le monde a maintenant, et si je faisais ça en parallèle. J'ai même fait des petites éditions, j'ai un peu exposé, mais pour moi, c'était... Je me disais pas photographe.
Passion.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Je faisais des photos en soirée, mais c'était vraiment quelque chose d'à côté, quoi. Mais au fond, j'avais toujours le NSP en tête et le travail de Pauline et tout, voilà, Jürgen Taylor, enfin, tous ces photographes. Ouais. David Lachapelle, qui est un de mes photographes préférés, enfin, en tout cas, de l'époque des années 2000. J'avais toujours ça en tête et j'en avais marre de mon taf en 2017. Et je savais pas quoi faire. Et je me suis dit... Bon, je vais avoir le chômage. Est-ce que ça serait pas YOLO, quoi ? Je vais tenter l'école photo. Mais j'avais aucune formation dans le milieu de l'art. Et j'ai eu le concours. Et du coup, je suis parti à Arles en 2017. Et ça a été un des meilleurs choix.
C'est fou, genre, d'être pris à Arles comme ça. Parce que pour le nombre de personnes que je connais, qui sont allés dans cette école et qui ont passé plusieurs années aux Beaux-Arts à préparer le concours, à être refusés, à retenter l'année d'après. Genre, être pris comme ça, avec genre, cette envie genre, super forte et tout, et du premier coup aussi, en plus. C'est trop bien.
Bah ouais, c'est trop bien. Après, j'ai grave bossé aussi le concours.
Oui, bien sûr.
Et je pense aussi, l'avantage, c'est que j'étais plus âgé, donc j'avais 27 ans quand j'ai postulé, donc j'étais plus mature. Et je savais ce que je voulais faire de l'image. J'avais aucune technique, mais je savais, en tout cas, je sais pas si je savais ce que je voulais faire, mais je savais ce qui me plaisait dans l'image. Je savais ce que je voulais faire.
Ce que tu voulais en dire et...
Pas ce que je voulais en dire, mais je savais quel type d'image je voulais faire. Voilà. Et je pense que c'est plus difficile aussi quand tu sors d'une école où t'es un peu plus formaté, t'es un peu plus jeune.
Ouais.
là, j'étais là en mode, j'ai rien à perdre, en fait. Donc, j'avais pas aussi peut-être cette pression de... J'étais là, bon, bah, let's go, quoi.
Non, mais c'est vrai parce que, enfin, quand on le rappelle... Bon, souvent, quand on fait un chemin, on va dire, un peu classique, Beaux-Arts, on passe par une prépa, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite, tu fais aller ton premier diplôme. T'as quoi? T'as 21 ans? Même pas? Si, ouais, je crois que c'est à peu près 21 ans pour la plupart des personnes, ou 22 ans. Et en vrai, c'est jeune. Après, quand tu veux débattre ou porter un travail, souvent, genre, ça a besoin de maturité et de réflexion. Et c'est vrai que c'est plus difficile de rentrer dans certaines écoles parce qu'on sent qu'il y a un petit manque. Et parfois, c'est peut-être même un peu plus tard et attendre de mûrir quelque chose de plus fort. Et du coup, c'est très chouette. Et t'as aimé ou pas?
Ouais, j'ai adoré.
C'est vrai?
Ouais.
C'était genre, ça allait dans toutes les attentes que tu avais eues?
Bah, en fait, j'avais pas tellement d'attentes parce que je savais pas ce que c'était une école d'art.
Ah bah...
J'avais pas de potes qui ont fait les Beaux-Arts. Bah, tu vois, mes bestas, quand tu faisais les soirées, aucun d'entre nous en avait fait une école d'art.
Okay.
Donc, j'étais pas du tout dans ce réseau-là. J'ai trop kiffé parce que juste, je me suis beaucoup épanoui. Et en fait, la photographie, cette école, m'a permis de fusionner toutes les expériences que voilà, je t'ai racontées au début, c'est-à-dire le rapport au corps, le rapport à la musique, le rapport à la fête. Et j'ai eu l'impression que c'était la première fois que j'arrivais à pouvoir exprimer mes différentes expériences et mes différentes facettes, en tout cas à travers l'image et à travers l'art contemporain.
Est-ce que tu pourrais, toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout ce qu'est l'ENSP et en quoi ça consiste, du coup, une école de la photo, et c'est un peu genre the école de la photo, genre en France, pour le coup, est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment fonctionne l'école, le cursus, que c'est le cursus de base, on va dire?
Ouais. L'école photo de Arles, ça dure 3 ans. C'est pour un niveau master, donc il faut avoir une licence, je crois, donc c'est vraiment le niveau master. La première année, c'est uniquement des cours techniques. Il y a quand même comme la notion des beaux-arts où tu fais des bilans, etc. Mais c'est vraiment quand même très spécifiquement technique. Et ensuite, la seconde et troisième année, c'est vraiment sur la recherche personnelle, sur ton travail artistique, sur ton sujet, sur comment tu présentes ton travail. Voilà, et puis la troisième année, il y a le diplôme. Bon, moi, je suis diplômé Covid, donc je n'ai pas passé de diplôme.
Pas du tout ?
Eh bien, en fait, on a fait un Skype avec mes profs, et ils nous ont donné le diplôme.
Ok, waouh !
Ouais.
Je pensais qu'au moins, il y avait une sorte de diplôme passé plus tard avec
non.
Je sais pas, une mise en espace.
Ils nous ont fait, on a eu une exposition.
Ouais.
Voilà, exposition de diplômés, mais non, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment encore 2020, juin 2020, donc ils ne pouvaient pas accueillir du public, enfin bref, tout le bordel. Et je pense aussi que c'était compliqué, ensuite, pour certains étudiants qui partent, d'avoir les sous pour revenir et faire un diplôme, genre, quand tu n'as pas l'école, quand tu ne peux pas tirer, je pense quand même beaucoup de stress.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, voilà.
Pas trop décevant de terminer une école d'art, comme ça?
Franchement, pas du tout.
Ah ouais?
Non. En fait, bon, je ne suis pas déçu parce que j'ai eu de la chance à la fin de l'école, j'ai eu mon premier solo show organisé par une curatrice qui s'appelle Julia Marchand, qui est curatrice de Extramental et aussi co-commissaire à la Fondation Van Gogh à Arles. Donc on va dire que j'ai eu mon moment où j'ai pu présenter, mais c'était pour moi vraiment génial parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait cette expo, pas pour un jury et pour... noter, mais pas avec une commissaire, et pour vraiment me faire plaisir et dire ce que... voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai pas eu cette frustration parce que j'ai pu montrer mon travail à un moment, donc ça a été... Mais je trouve que le diplôme, c'est vachement stressant.
Ouais, hein, c'est pas...
Franchement, j'étais là, genre, évidemment que c'était bizarre de finir l'école comme de cette manière-là, mais En plus du Covid, l'ENSP déménageait de nouveaux bâtiments qui est maintenant en face de la Fondation Luma. Donc, en fait, on n'avait pas accès au labo parce qu'il n'était pas encore ouvert. Donc, en fait, c'était vraiment une année bizarre de transition. Ouais. Donc, je n'ai pas eu ce truc. Je pense que si c'était dans l'ancienne école, j'aurais eu, je pense, cette nostalgie. Mais nous, on fait partie, ma promo 2020, on a fait partie de la dernière promo qui ont fait la dernière troisième année dans l'ancienne école.
Ok.
Historique.
Et en plus, moi, j'aime bien le rappeler, mais c'est vrai que Arles, c'est un peu cette ville un peu folle et bizarre, qui est quand même très particulière. C'est une ville qui est genre hyper artistique parce que bah, y a le NSP, mais du coup, y a tout le Luma qui prend... Il y a toute une partie de la ville qui s'est transformée en centre d'art et musée. Enfin, je crois que j'ai jamais vu une ville pour le... Enfin, j'y suis allée quoi, une ou deux fois. Genre, il y a plein de galeries. On sent que c'est une ville qui respire l'art et à la fois, c'est une ville qui est hyper compliquée niveau agression, niveau acceptation de ce côté hyper artistique. Genre, c'était pas trop difficile de... Du coup, tu y as vécu pendant 3 ans ou pas?
Oui. Donc ça, par contre, je peux te dire que oui, j'ai adoré le NSP. De toute façon, j'ai passé mes trois années à être en permanence à l'école. En plus, ça fermait à 22h, 23h.
Ouais. Puis qu'est-ce que tu veux faire d'autre à Arles?
Mais rien.
Voilà.
Mais rien, c'est bien ça le problème. Non, moi, par exemple, j'ai détesté habiter à Arles. Vraiment, mais genre, dès que j'ai fini, j'avais qu'une seule hâte, c'était de partir de cette ville.
Ouais, tu m'étonnes.
Parce que bon, moi, j'ai eu la chance, j'ai pas senti cette agression. Mais c'est dans sa bulle, en fait. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est une ouverture sur le monde en termes d'art. Mais le quotidien, la vie, elle est... enfin, j'ai l'impression que bah, justement, t'as tout. Mais Arles restera Arles. C'est ça. Et comme en plus, c'est très gentrifié. Et en même temps, la gentrification aussi, elle enclenche d'autres choses dans la ville pour les classes populaires. Mais c'est vraiment... c'est space.
C'est très... moi, je trouve que c'est une ville... C'est hyper intéressant. Enfin... Elle pourrait être étudiée par des professionnels. Je la trouve très particulière. Et je ne sais plus où est-ce que je voulais aller avec ça. Non, mais en fait, j'ai tellement entendu d'histoires de personnes, d'amis à moi qui se sont fait agresser dans la rue pour X raisons, souvent à cause de leur orientation sexuelle, entre autres.
Ouais.
Et à la fois, c'est une ville où genre, t'as les plus grandes stars qui vont s'y balader tranquille. Genre, c'est hyper... C'est hyper bizarre.
Oui, après, si tu viens l'été, c'est plutôt OK parce que c'est là où tu as beaucoup de touristes. Donc, du coup, je pense qu'il y a du monde dans les rues. Donc, quand même, tu te sens safe, je pense. En tout cas, je vais parler de mon expérience parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des agressions. Mais sinon, tout le reste de l'année, c'est une ville conflictuelle, je trouve.
J'ai très envie de savoir comment, à partir du moment où tu es rentrée du coup à l'ENSP et à partir du moment où tu en es sortie, comment tout ton travail en fait, il a évolué avec le temps. Parce que je suppose que le fait de rentrer dans une école, d'apprendre de nouvelles techniques, etc., je pense que, j'imagine que ta manière d'apprivoiser l'image et de t'en servir et de la montrer a dû complètement évoluer avec les années.
Oui, c'est sûr qu'elle a évolué. Bah, déjà, j'avais aucune technique. Donc, mon premier objectif, c'était de savoir utiliser un appareil photo réflexe. Puisque je ne savais pas utiliser les temps d'exposition, la vitesse, je ne connaissais rien. Mais on va dire que ça a évolué. Je ne dirais pas que ça a changé. Je n'ai pas eu un twist où j'ai complètement changé. On va dire que ça m'a permis de réaliser des images que je voulais faire et que je ne savais pas faire. Après, bien sûr que il me reste encore plein de trucs à apprendre. Il y a encore des choses, des lacunes techniques que je sens aujourd'hui. Mais c'était la consécration de ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, c'était des portraits de pop stars, mais avec mes potes, quoi.
Ouais. franchement, ça décrit plutôt bien.
c'était le premier truc que je voulais faire. En fait, à l'école. Si au début, j'ai commencé à faire des trucs un peu conceptuels, mais ça me faisait trop chier. Et en fait, il y a eu un moment, ça a été en milieu de première année, je me suis dit, mais en fait, fuck it, quoi. Genre juste, je veux prendre en photo mes potes. Je veux que ce soit des pop stars. Et
Strass et paillettes.
Et c'est tout. Et après, évidemment, il y a des choses, du sens, des choses qui sont venues au fur et à mesure. De ma pratique, de discussion avec des gens et aussi d'une certaine distance. Bon, j'ai toujours des choses que je ne comprends pas dans ce que je fais, mais enfin, dire que je ne saisis pas. Ouais, voilà.
Est-ce que j'ai remarqué que dans tes photos, souvent, tu les travailles, je dirais, à la lumière naturelle. C'est souvent dans des extérieurs. Ça a tout de suite, c'était pour toi, genre quelque chose d'inné ou genre à un moment donné, tu es passé par le studio, mais ce n'était pas ton truc ou...
Non, je suis jamais passé par le studio parce que je suis pas fan en fait des photos en studio. C'est pas quelque chose qui m'attire. Je suis passé en extérieur Parce que c'est une bonne question. Je pense que d'abord, ma première volonté, j'ai passé du coup de mes 20 ans à 27 à faire des photos en intérieur au flash, de fête, etc.
Ouais.
Donc j'arrive à Arles, je ne peux plus faire la fête.
Ah oui, bah ça oui.
Voilà.
Ouais.
Et même, je suis dans un mood où j'ai l'impression que j'ai moins envie de la faire.
Ok.
Je la fais quand même, mais c'est plus espacé. Et en fait, j'avais envie de prendre des gens de la fête à l'extérieur, en dehors de la fête. Parce que je pense que j'avais un peu aussi, des fois, cette frustration de... En fait, on rencontre toujours plein de gens à teuf et on rigole trop et après, on les voit plus. Ouais.
Ça décrit
tu
très
vois.
Bien.
Et du coup, je crois que j'avais envie de me lier avec des personnes,
ouais.
ou en tout cas de rencontrer de façon plus deep des personnes de la fête. Et du coup, l'extérieur, c'était, pour moi, c'était un jeu. Et après, quand j'ai commencé à faire de la photo aussi, j'ai fait beaucoup de photos d'architecture et d'extérieur. Donc, j'étais toujours attiré par des formes graphiques dans l'urbain. Donc, je pense qu'il y avait ça aussi qui jouait. J'étais là, en fait, j'avais déjà cette notion de l'espace urbain comme décor. Mmh. Et du coup, ensuite est venu, j'avais envie de prendre en photo des humains parce que c'est ce que je préfère. Prendre
ouais.
des gens en photo, voilà.
Et c'est marrant, tu n'as pas genre mal vécu le fait de ne plus pouvoir faire la fête du tout, même avec Arles,
ouais.
Et ensuite genre le Covid. C'est moi,
si.
Genre, ça m'a fait tellement de mal que mon diplôme était là-dessus,
ouais.
Pour te dire.
Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû parler de ça, à mon avis.
Je sais que la fête, c'est un sujet sans fin et... Que plein de gens ont utilisé ce sujet sous plein d'époques différentes, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est ressorti énormément suite au Covid. Moi encore plus parce que moi je suis passée du coup de Toulouse à Nice et j'ai pas trop kiffé.
Ah ouais,
Nice.
Ouais.
Surprenant.
Ça a pas l'air ouf, non.
L'école était bien, mais en soi pas ouf niveau soirée, rien du tout. Et mais c'est quand même la Villa Arson a ses côtés positifs comme ses défauts, comme toute école. Mais c'est vrai que j'arrivais pas à me retrouver dans les soirées de la Villa et les soirées niçoises. Et j'ai trop mal vécu ce truc où j'arrive dans une ville où je connais personne et j'y arrive pas. Et en fait, c'est comme ça, moi, que j'ai commencé à parler de la fête et dans mon travail. Après, c'est pas un sujet que j'utilise vraiment aujourd'hui. Je pense que c'était juste à ce temps précis d'où ça m'importait. Mais du coup, ouais, toi, ça t'a pas plus impacté que ça
Si, si.
Ouais.
Si, si, ça m'a impacté. Parce que je pense qu'il est aussi. Ça m'a impacté parce que j'allais vers ma trentaine.
Ouais.
Et en fait, je sentais que j'avais plus envie de faire les fêtes pour les mêmes raisons que quand j'étais dans ma vingtaine jusqu'à mes 25 ans, on va dire. Que c'était plus quelque chose d'identitaire pour moi.
Mmh.
Et du coup, j'avais du mal à trouver ma place. Et donc, j'ai été très frustré quand je suis arrivé. En plus, avec le Covid, du coup, il y avait moins de fêtes. Il y en avait, mais voilà. Et du coup, j'arrivais plus à trouver ma place.
Ouais.
Donc, ça a été difficile pour ça. J'ai eu une grosse frustration. Et cette frustration, d'ailleurs, en fait, j'en ai parlé. Enfin, en tout cas, on va dire, c'est pas que j'en ai parlé. On va dire que j'ai voulu travailler dessus avec une pièce qu'on a faite avec Delphine Deneras qui s'appelle La Noce, qu'on a faite en 2021, où on a interviewé 10 potes à nous de nous raconter des histoires de teuf. Et pour moi, c'était comme une thérapie, en fait.
Trop bien.
Je crois que, en fait, c'est ça aussi. Je trouve qu'on parle jamais de la fête. On la vit, la fête.
Ouais.
C'est rare. Enfin, aussi, on va parler le lendemain un peu, mais on va parler plus d'anecdotes ou des choses liées à la drogue, etc. Mais moi, je crois que j'avais besoin de parler de la fête et de...
C'est pas un sujet qui est pris au sérieux, en fait, j'ai l'impression. Ou on l'analyse peut-être... Enfin, analyser. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est... Enfin, oui, qui pour moi est forcément pris au sérieux ou... Ouais.
Ouais, Je pense que si, mais ça prend du temps de voir. Je pense que ça prend du temps et de la distance pour comprendre comment on faisait la fête il y a 10 ans, il y a 20 ans.
Ouais.
Je pense que là, ça va être... Après le Covid, la fête, ça a tellement changé.
Tu trouves ?
Ah ouais.
Ah ouais ?
Ah ouais.
J'ai pas l'impression d'avoir repris la fête telle que je la faisais en fait à Toulouse. J'ai l'impression que ça ne sera plus jamais pareil.
Bah ouais, après, est-ce que c'est une question d'âge? Je sais pas, mais je pense que quand même aujourd'hui, c'est sombre, tout ce qui se passe, c'est dur, et je trouve pas que la fête aujourd'hui soit vraiment très lumineuse. Et je pense que c'est ça aussi, j'aime la lumière. Et d'ailleurs, j'ai toujours mes fêtes préférées, c'est les fêtes en extérieur en journée. Ça, j'adore. Voir les gens danser.
J'ai jamais fait ça.
Bah moi,
Je
j'en ai fait
crois.
beaucoup à Barcelone, notamment. Même si tu vas en festival, quand même.
Si, oui, en
Tu
festival.
vois?
Ah, et si, un peu les siestes électroniques à Toulouse.
Oui, par exemple aussi.
Ouais.
Ouais.
C'est les trucs qui me viennent en tête. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un côté très sombre. Oui. Ben oui, en même temps, vu ce qui se passe.
Ouais, après, c'est ma vision. Hein. J'espère, j'imagine, je suis sûr qu'il y a des gens qui continuent à faire la fête, qui s'amusent à fond et que c'est un lieu de joie et de jouissance. Mais en tout cas, moi, comme je la vis aujourd'hui, je trouve que c'est un peu intense. D'ailleurs, c'est le mot que j'utilise tout le temps, intense. Je
Intense.
pense que je dois dire 5 fois dans la journée pour tout et n'importe quoi. Et avant, je n'utilisais pas autant.
Moi, je trouve que mes fêtes, elles manquent d'intensité.
Ah ouais?
Maintenant, ouais. C'est triste, ouais. En fait, vous ne savez pas à quel point j'ai envie de faire la fête et que finalement, je ne trouve jamais. En fait, j'ai pas encore réussi à apprécier la fête à Paris. Je sais
Ouais.
pas pourquoi. J'ai pas réussi à trouver un lieu qui me plaisait et d'y aller avec les bonnes personnes aussi, parce que c'est pas parce que t'es ami avec telle personne que ce sont les bonnes personnes pour aller
Oui.
faire la fête.
Oui.
Et du coup, je crois que j'ai pas encore trouvé ce truc et je me dis, bah, je sais pas, est-ce que je le trouverai jamais? Et où est-ce que c'était genre avant?
Mais si, mais après, je pense que la fête, c'est le lâcher prise aussi.
Peut-être.
Mais
Ah, je suis devenue trop.
c'est difficile, je pense, d'avoir du lâcher prise parce qu'on a toujours des attentes.
Ah,
D'ailleurs, je trouve que
j'avoue.
les meilleures fêtes que j'ai faites, à chaque fois, c'était. J'avais fait une fête un jour, et tu sais, le lendemain, t'as une autre fête. Mais t'es trop fatigué, t'as trop la flamme de le faire. En tout cas, moi, je faisais partie de ces gens-là.
Oui.
Mais tu te forces parce que t'as dit que tu venais, et cette fête-là, celle où t'es trop fatigué, c'est la meilleure parce que t'as trop la flamme d'y aller. Et du coup, j'ai l'impression que tu es totalement ouvert à tout ce qui va se
Ouais.
passer. Parce que tu n'as pas d'attente. Ta seule attente, ta seule projection que tu as, c'est genre, je vais y rester 1 ou 2 heures et je vais rentrer chez moi. Et en fait, bon, finalement, tu rentres pas chez toi.
C'est vrai. Après, moi, je suis de cette team qui beaucoup fait la fête une fois. Je vais certainement pas ressortir le lendemain.
Ouais. Ou après, il y a des
Je
gens
suis
qui font
un
des
peu
tunnels de taf
casanière.
aussi. Ça, c'est une autre philosophie aussi.
C'est vrai aussi. Moi, je crois que je préfère ne pas m'arrêter de faire
Ouais.
la fête
Ok.
et du coup d'enquiller.
Ouais.
Mais ça aussi, genre, est-ce que. Je sais pas si aujourd'hui je serais encore capable de le faire. J'adore parler comme si j'avais 52 ans alors que pas du tout. J'en ai que 26. Mais bon, je me sens vieille en ce moment. Comment est-ce qu'on peut reprendre la conversation vers la photo, du coup?
Bah, je peux te parler de ma première série, All Eyes on Us,
Ah bah carrément.
qui parle de la fête.
Ah bah voilà.
Enfin, qui a un lien avec la fête,
Ouais.
en tout cas. Ma série All Eyes on Us, c'est mon premier travail photographique, première série que j'ai faite juste en sortant de l'ENSP. All Eyes on Us, c'est une référence. Exactement! C'est une référence à Britney Spears parce que bon, la pop culture, c'est vraiment ce qui me nourrit toujours aujourd'hui et ce qui m'a nourri dans l'image. Et ça parle de la fête. Et ça parle, voilà, de quand on arrive dans un club et que tout le monde te regarde et que tu as cette aura et que tu as envie qu'on te regarde et que tu existes par la fête. Et du coup, toute l'idée de ce projet, c'était de faire une série où je prends des personnes d'une teuf ou des amis qui font la teuf et les prendre en photo à l'extérieur.
Oh,
Voilà.
en plein jour, du coup?
En plein jour. Donc dans des espaces périurbains, parce
Ouais.
que aussi c'était parler aussi de la fête aujourd'hui qui est quand même vachement plus en périurbain. Et du coup c'est une relation entre l'architecture et la fête. Et je voulais parler de ce moment où justement où tu sors d'une teuf, t'es défoncé. Et là, tu as la lumière du jour et tu vois toute cette architecture et comment tu te sens. Voilà, quand tu sors de cette teuf, il y a des gens, ils adorent avoir ces expériences-là parce que ça crée un peu un terrain de jeu. D'autres où c'est hyper angoissant. Moi, je fais partie de ces gens-là où ça m'angoissait. Donc,
Ouais.
à travers ces photos, je voulais travailler là-dessus. Et l'idée, c'était vraiment, je voulais faire à ce moment-là, un travail queer, mais qui ne parle, en fait, qui parle pas uniquement du genre, mais je voulais vraiment brouiller toutes les pistes.
Ouais.
C'est-à-dire que toutes ces photos, elles ont été prises dans plein d'endroits en Europe. Mmh. Et en fait, en même temps, quand tu vois la série, tu ne sais pas où ça a été pris.
Mmh.
Tu pourrais penser que c'est dans la même ville, mais en fait, non. Tu ne sais pas à quelle heure ça a été pris. Tu ne sais pas si ça a été pris genre le matin, au petit matin, si ça a été pris l'après-midi. Mmh. Donc, il y a aussi un « je brouille les pistes sur la temporalité ». Et aussi, évidemment, la question du genre, mais que je n'aime pas forcément parler parce que je... souvent, enfin... malheureusement l'hétéronormativité veut toujours besoin qu'on définisse le genre, donc souvent ça m'arrive en expo genre ah mais c'est une fille, c'est un garçon, etc. Et donc l'idée aussi c'était de ne pas parler du genre et de laisser un doute, et aussi pour ne pas mettre les gens dans des cases.
Non, et puis c'est un truc qui est, je trouve, très récurrent à chaque fois que quelqu'un prend des photos et que tout d'un coup on a des corps qui sont différents, qui sont face à nous, on les met tout de suite. Ah, ça, c'est de la photo pour les gays. Non, mais il y a un peu ce truc-là, genre on vous met en fait dans une case, et je trouve ça en fait hyper énervant, chose qu'on ne ferait pas forcément. Bon, après, si, quand je vois des vieux mecs prendre toujours une gamine de 16 ans à moitié à poil sur une plage. Moi aussi, je les mets dans une case, tu vois.
Ouais,
mais,
ouais.
Mais bon, c'est différent, quoi. Et
oui, mais l'hétérosexualité, ce n'est pas une case. C'est la société. Elle est comme ça. Et du coup, forcément, nous, on est une case. Et justement, je voulais essayer de dire que je suis un photographe queer, mais c'est dans ma manière de travailler que je suis queer et pas forcément dans le sujet que je traite.
Ouais.
Mais ça, c'est difficile à vendre. Parce que l'institution, le milieu, quand même, aime les cases, et ça rassure et ça facilite les choses. Voilà.
Et du coup, ce projet que tu as fait juste après l'école, est-ce que tu avais déjà quitté Arles ? Est-ce que tu as quitté Arles rapidement ?
En fait, je l'ai fini à Arles. Ensuite, la série a été sélectionnée pour le prix Une attention particulière par les rencontres d'Arles. Et puis c'est un peu une série qui a vraiment révélé mon travail, qui a énormément marché, et c'est là en fait où tout ensuite a découlé après l'école. J'ai eu un départ fulgurant après l'école.
C'est beau, ça, c'est beau quand ça arrive.
C'est beau, mais c'était incroyable, mais c'était tellement fulgurant que je réalisais rien du tout, et c'était très stressant.
De toujours maintenir les expectations. Ça ne veut rien dire.
Les attentes. T'inquiète, moi aussi je fais du franglais. Non, mais j'ai l'impression que je ne maîtrisais rien. En fait, c'était une succession. En fait, j'étais en shoot, on m'appelait pour un autre shoot, et j'ai fait des gros trucs d'un coup. Je suis arrivé, genre, les rencontres d'Arles, premier solo show avec une commissaire d'expo qui fait un taf de ouf, Julia Marchand, coucou, dédicace. Ensuite, Vogue US, ensuite La Horde, ensuite Mars Attack. Et c'était en fait, ça ne s'arrêtait pas.
Okay.
La Villette, etc. Et oui, c'était ouf, mais je peux te dire que j'ai eu une redescente ensuite.
Ouais. Est-ce que tu arrivais à produire autant... Enfin, là, moi, en ce moment, j'ai une période où... C'est trop cool aussi, mais je fais pas mal d'expos d'affilée. Ouais. Sauf que moi, j'ai tendance à travailler où, quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais un projet qui me durait une année entière, si ce n'est 3 ans. Parce que tu prends ton temps, tu construis bien et tout. Et là, je me retrouve où pendant 1 an, j'ai rien eu.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, j'ai 3-4 expos d'un coup.
Ouais.
Et vu que j'ai pas un portfolio qui est hyper fourni, je suis là, je vais faire un nouveau projet pour les 3-4 nouvelles expos à chaque fois. Et donc, je me retrouve à faire 4 projets en 4 mois. Alors que MDR, normalement, ça a 4 projets en 5 ans. T'es arrivé ou pas, du coup, à réussir à produire des choses malgré tout de qualité ou qui te plaisaient ? Parce que moi, parfois, je suis un peu... est-ce que c'est aussi bien que... tu vois, si je l'avais mieux construit ou pas ?
Ouais, j'ai réussi pendant 2 ans. Donc, j'ai maintenu. Donc, j'ai fait ensuite ma série Tira Lanso, qui est en fait un peu une extension de All Eyes on Us, mais qui plastiquement, pour le coup, avait évolué vers d'autres choses. Mais non, c'est dur. Le milieu de l'art, de toute façon, pour les artistes émergents, c'est horrible. En fait, il y a une fétichisation des jeunes artistes, et en même temps, le système n'est pas du tout adapté pour les jeunes artistes, c'est-à-dire qu'on reste hyper précaire, et en même temps, on a un peu cette espèce de nouveauté, donc on attend qu'on soit en fait un regard neuf. Et on ne peut pas l'avoir, ce regard, comme tu dis. Enfin, je pense que bah, All Eyes on Us, ça m'a pris 3 ans pour le faire. Et là, effectivement, quand tu postules le dossier, bah, tu dois en permanence inventer des nouveaux projets. Et c'est dur.
C'est super dur.
Ouais.
Là, moi, franchement, j'étais pas bien là, ces derniers mois en mode
ouais.
Faut enchaîner, faut en plus que tu as un travail alimentaire. Quelle galère. Et en même temps, tu es hyper content et hyper reconnaissant d'avoir du taf et
oui.
De faire des choses et de créer. Donc, tu te dis, bah non, t'as pas le droit de te plaindre ou de dire ce genre
oui.
De choses parce que bah, y en a, ils ont rien à côté. Et en même temps, bah, c'est une réalité, genre, tu le vis. Donc,
oui.
Voilà. Je le partage. En ce moment, je galère.
Mais t'inquiète, moi, je galère de ouf aussi. Moi, là, je suis dans ma... Je pense que 2022, ça a été une redescente pour moi.
Mmh.
Bon, j'ai eu quand même des projets. Hein. J'ai eu des prix, etc. Mais ça a été ma grosse claque. Ça a été ma big redescente de teuf de 2 ans. C'était pas de la teuf parce que j'arrêtais pas de bosser. Mais ça a été un peu genre grosse claque. Et là, je suis un peu en mode... je veux retravailler avec un rythme différent.
Ouais.
Et
tu mets les choses à plat.
Ouais. C'est un peu le but
ouais.
Cette année.
C'est une bonne idée. C'est
ouais.
de souffler un peu et prendre son temps et en fait, juste prendre du recul sur déjà ce que tu as fait pendant 2 ans.
Ouais.
Et après, te dire bon, ok, j'ai fait ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je veux dire aussi de après ces années et tout de travail de folie, quoi.
Ouais.
Et c'est trop bien.
Ben ouais.
Et en parlant de travail de folie, je vais dire un nom, Wolfgang Tillmans.
Qui ça, je connais pas.
C'est qui lui?
Petit photographe, non?
Un petit photographe allemand, je crois. Tu as travaillé avec lui, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Truc de ouf, je veux grave que tu en parles.
Ouais.
Mais avant, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas du coup ce monsieur, est-ce que tu peux nous dire qui c'est?
Ouais.
Et en quoi consiste un peu son travail?
Bah, Wolfgang Tillmans, c'est un photographe iconique d'une génération, queer. Mais ce qui est super fort avec Wolfgang, c'est qu'il ne s'est jamais décrit tel quel.
Mmh.
Son travail était queer et les gens qui prenaient en photo, les sujets... Un photographe qui parle de la fête, un photographe gay assumé, un photographe qui, en fait, repense l'image dans l'espace. Quand même, c'est celui qui a créé un accrochage, moi, que j'appelle Constellation, que les gens, mais et qui a vraiment, pour moi, c'est intégré cette notion. Ce n'est pas de la photographie, c'est de l'image, je pense. Et voilà, c'est un photographe pour moi qui est bien sûr c'est
une référence,
une énorme référence, référence comme tout, je pense, photographe, jeune photographe aujourd'hui, pas que queer, mais bon, évidemment, ça fait du bien de voir un gay dans ce milieu qui est quand même hyper masculin et hétéro,
ouais.
Et qui mélange la musique, enfin voilà.
Non, c'est clair. Si je me trompe pas. C'est lui qui avait réalisé la couverture de Frank Ocean.
Ouais.
Ouais.
Exactement.
Donc voilà, ça peut donner une idée parce que cet album est iconique. Tout le monde connaît cet album. Donc,
ouais.
Par exemple,
ouais.
Si vous n'avez pas d'image en tête, ça c'est Wolfgang.
Ouais, entre autres.
Entre autres.
Il en a plein d'iconiques. Mais c'est vrai que récemment, peut-être que c'est comme Frank Ocean, c'est une énorme célébrité. Je pense que les gens connaissent bien cette image.
Mm-hmm. Bah, celle dans la douche, les cheveux verts, souvent c'est. Enfin, pour moi, c'est une image iconique. On s'en souviendra pendant encore longtemps. Et je sais que les plus jeunes, quand je leur dis le nom du photographe, ils vont peut-être pas capter. Mais je me dis, cette pochette d'album, c'est une légende. Voilà.
C'est une légende. C'est grave une légende.
Ouais.
De
mais
ouf.
Du coup, comment?
Comment?
Comment ça s'est fait?
Eh ben, j'étais en... Blablabla, attends. Première année ENSP, Wolfgang fait une exposition au Carré d'Art à Nîmes. Le Carré, il cherche 2 stagiaires pour le montage d'exposition. Et j'ai postulé, on était plusieurs à postuler, et on a été 2 sélectionnés, dont Cédrine, qui était dans ma classe. Et donc, on a travaillé avec lui et 2 de ses assistants pendant 2 semaines. La première fois que j'ai dû déjeuner avec lui, je me souviens, on avait commandé des sushis, j'arrivais pas à avaler mes sushis tellement j'étais stressé. D'ailleurs, cette anecdote est apparue dans l'interview dans Numéro Art. Je l'avais dit au journaliste, Je pensais pas qu'un image, j'étais là, putain, la honte. Mais bah, du coup, moi,
non,
je l'assume.
Mais en même temps, genre, c'est... Enfin, je sais pas, c'est ce genre d'anecdote qui fait que, tu vois, genre, c'est généreux, c'est honnête et ça fait plaisir parce que on serait... Enfin, moi-même, si je me retrouvais devant une de mes références artistiques, je serais là, genre, incapable de manger. Je regarderais manger comme ça, genre, comment est-ce qu'il mange ses sushis?
Non, mais moi, en fait, rencontrer Wolfgang, pour moi, c'était comme rencontrer Lady Gaga, tu vois.
Ouais.
C'était la même chose.
Fou.
D'ailleurs, il fait des très belles photos de Lady Gaga qui sont pas très connues, qui sont super cool dans un parc. Mais ouais, non, j'étais... Enfin, voilà, on a bossé 2 semaines ensemble. Ça s'est trop, trop bien passé. Et on a gardé contact. Et ensuite, je lui ai demandé pour, si je pouvais venir faire un stage dans son studio à Berlin. Et normalement, il ne prend pas de stagiaire. Mais comme ça s'était bien passé, on avait un bon contact. Il m'a dit ouais. Oui. Il m'a dit, ah, monsieur, tu peux rester 2 mois. Et je lui ai dit, bon, écoute, 1 mois, c'est OK. Mais par contre, 2e mois, je vais être payé. Donc, il m'a payé comme un salarié. Et donc, je suis allé 2 mois à Berlin bosser à plein temps dans son studio avec son équipe de 25 assistants.
25 ?
Eh ouais.
Mais alors, attends, parce qu'il faut mettre les choses au clair. Quand tu es artiste et que tu as 25 assistants, c'est pour faire quoi exactement ?
Bah après, Wolfgang, il a une. En fait, il bosse sur tellement de projets. Tu vois, il y a évidemment déjà les expositions, mais il a plein d'expositions à l'année. Il y a toute la gestion des archives, toute la production des œuvres, des prints sont faites sur place, toute la gestion de la bibliographie, parce que Wolfgang Tillmans est cité en permanence dans plein de publications, que ce soit des livres, des journaux. La gestion aussi, à ce moment-là, comment j'y vais, j'ai travaillé 1 mois sur sa campagne européenne Vote Together, qui était une campagne politique pour inciter, enfin, pas inciter, pardon, une campagne politique pour. Sensibiliser les personnes à voter pour les élections européennes, c'était avant le Brexit, et la musique, enfin en fait...
Le mec s'arrête pas.
Enfin, il est partout. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément, c'est pas quelqu'un qui se roule les pouces. Et ce qui est super avec Wolfgang aussi, c'est que en fait, il citera toujours son studio, ses assistants. Je trouve qu'en en fait, il déconstruit cette notion de l'artiste qui fait tout. Mais non, en fait, qu'on soit à l'école et qu'on ait 50 ans, en fait, on a toujours besoin de personnes pour travailler.
C'est tellement vrai.
C'est vrai, et on n'assume pas. Enfin, en tout cas, le milieu de l'art ne le met pas assez en avant. Et lui, c'est quand même quelqu'un qui, je trouve... bon, évidemment, il y a écrit Wolfgang Tillmans sur les expos, mais dans les cartels, etc., toujours les textes expos, il y a écrit le studio, etc. Enfin, il y a une vraie considération des assistants. Et ça, franchement, un artiste de cette envergure qui a... Bon, c'est le seul grand artiste que j'ai rencontré.
Il a quel âge ?
50 ans.
Ok.
Ouais.
Encore, enfin, jeune, en plus.
Ouais.
Enfin, c'est pas...
Ouais.
Ok, ça doit être hyper inspirant de voir un artiste de, genre, de cette envergure, genre déjà le voir travailler et juste voir la manière dont il... je sais pas, dont il fonctionne. Ouais, déjà, moi, 25 assistants, genre, je suis là, genre... Waouh, est-ce que c'est ça la réussite dans l'art, avoir 25 assistants ?
En plus, quand je suis arrivé, donc si tu veux, j'arrive à Berlin, donc c'est trop cool parce qu'ils me trouvent un appart pour que je puisse être hébergé, etc.
Trop bien. C'est super dur de trouver des appartements à Berlin. Oui. Je précise.
Et tu vois, le premier jour, mais j'étais tellement stressé avant d'arriver. J'arrive et là, j'arrive dans un studio qui est sublime. Tout le monde, trop beau, trop sympa. Et j'étais là, non mais c'est pas possible, il y a une couille. Vraiment, je me disais, non mais j'étais la première semaine.
Ils se sont trompés.
Quand j'étais mal, pareil, j'arrivais pas à digérer mes repas tellement j'étais stressé. Je me suis dit, non mais il y a un truc, c'est pas possible, tout le monde était gentil avec moi. Tu sais, moi j'allais avoir la vision avant d'arriver, je me suis dit, putain, ça va être, je vais arriver à Vogue, je vais être.
Le diable s'habille en Prada,
tu vois. Et en fait, j'étais là, ok, genre, non mais il y a des caméras cachées en fait, c'est pas possible. Et du coup. Ouais, donc c'était ouf. Donc j'ai bossé sur la campagne européenne. J'ai fait des trucs très, très logistiques, gestion, parce qu'il avait fait des t-shirts avec Nick Knight. Donc j'ai géré pour les envoyer à plein de centres culturels, artistiques, dans toute l'Europe, la gestion des contacts. Et le 2e mois, ça c'était incroyable. En fait, Wolfgang, il a un groupe qui s'appelle Fragile, un groupe de pop. Je dirais pas pop rock, mais en fait, il y a quand même une batterie, guitariste, bassiste, etc., synthé. Wow. Et donc, il faisait 2 lives au Berghain. Et donc là, en fait, au bout de la fin du premier mois, il me dit, bon, écoute, voilà, est-ce que tu peux gérer, me faire des propositions sur la scénographie et faire tout le vidging du live au Berghain. Donc, j'étais là, oh my God, et en même temps, là, j'avais envie de mourir aussi. J'étais là, genre,
Putain.
Et donc j'ai bossé sur ça et j'ai fait ça c'était ouf de bosser au Berghain. Ensuite la dernière semaine et la mise en place de la scéno et le de faire du VJing en live au Berghain, ça c'était dingue et j'étais responsable.
Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le VJing?
Ouais, ce mot ringard des années 2000 dont on trouve toujours pas si je pense que ce qui est cool maintenant c'est de dire AV audiovisual. Tu vois, il y a toujours ce A/V.
Ouais.
Mais en fait dans l'esprit des gens, malheureusement, VJing, c'est le truc le plus simple. Bah, c'est de faire un live joué avec de la vidéo en direct.
Ok, tout simplement.
C'est comme ça que je décris de façon plus simple. Ou si ce n'est pas en direct, de peut-être faire un montage vidéo qui est ensuite projeté, mais du coup, il y a quand même toujours un peu une gestion de direct. Mmh. Parce qu'il faut quand même pouvoir le positionner sur... Enfin, faire toute la mise en espace de l'image, etc.
Trop stylé.
Mais moi, je faisais ça plus la gestion des lampes, parce qu'on avait ramené des lampes de New York, des lampes de chevet qu'on avait en fait connectées à Ableton.
En mode mapping.
En mapping, etc. Voilà. Donc, j'avais dû apprendre à faire ça. C'était bien stressant. Je ne savais pas utiliser Ableton, mais c'était hyper cool. Et j'avais projeté la vidéo sur du papier bulle.
Mmh.
Ouais.
Trop cool.
Ouais.
Et est-ce que tu as eu l'occasion, du coup, de parler de ton travail avec Wolfgang d'échanger un peu, est-ce qu'il a vu tes photos, des choses comme ça?
Oui.
Wow.
Ouais. Je suis toujours en contact avec lui.
Très stylé.
On arrive à se voir une fois par an, c'est cool.
Ah oh là 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 là, c'est fou ça. Quelle vie.
Ouais, j'avoue que je me sens vraiment chanceux.
Ouais,
puis en plus, c'est vraiment une personne humainement qui est quand même super chouette. Et bah ouais, c'est ouf. C'est ouf.
Et lui, il se considère surtout photographe avant tout ou plutôt artiste
En fait, je pense que des fois, ça dépend. Je crois que des fois, il m'avait dit... Enfin, des fois, il disait qu'il se dit photographe, des fois, il se dit artiste. C'est toujours un peu hybride. Mais c'est aussi le monde de l'art. Je sais pas pourquoi. La photographie, c'était genre, t'es photographe. Alors, si t'es sculpteur, tu vas pas dire, oui, il est sculpteur. Non, il est artiste. T'as vraiment ce truc de l'image, la photographie... Elle laissait sa petite bulle. Et...
Elle est mise à part.
Exactement.
Même à un moment donné, on l'avait enlevé du... Il n'y avait pas eu ce gros truc où, tu sais, il y a un peu... Tu sais, chaque art a son truc. Tu vois, le premier art, deuxième art, septième art, sixième art. Ouais, et je me souviens, à un moment donné, la photo avait été enlevée de ce truc-là.
C'est possible.
Et je me souviens, j'en avais parlé du coup avec mes potes photographes. Et j'étais là, mais ils sont fous. Genre, à quel point, genre... Enfin, la photo est limite crachée dessus. Et pourtant... Genre pourtant tu vois c'est adoré, j'ai l'impression que c'est ce qui se vend le mieux, le plus facilement. Je sais pas, genre si toi est-ce que genre un photographe ça vend bien en 2023?
Waouh.
Quelle question.
Je pourrais pas te répondre à cette question.
Ouais.
Surtout que en fait quand je suis sorti de l'école, moi j'ai travaillé mon médium photographique où je ne voulais pas de cadre. Donc je ne voulais pas de cadre formel classique, donc j'ai fabriqué mes propres cadres. Donc c'était des structures qui étaient assez lourdes, notamment sur l'exposition de Tira Lenso. C'était des grosses plaques en plexi que j'avais fait graver, etc. Donc c'était des objets photographiques et ça, j'ai eu quand même eu du mal. J'en ai vendu une pièce, mais c'était cher. Mmh. Mais je pense que là, en 2003, c'est une des résolutions. Je pense que je vais revenir à la médium photographie plus classique parce que je suis précaire, parce que je n'ai pas de sous et que j'ai besoin de vendre. Voilà, mais c'est toujours ce truc en fait, c'est trop chiant parce que le milieu de l'art, du coup, quand tu fais des formes un peu différentes de la photo, c'est là, ah oui, on adore, mais t'as pas les sous parce que faire la photo c'est tellement cher.
C'est ça.
C'est cher l'appareil photo, c'est cher de développer, c'est cher d'imprimer, c'est cher d'encadrer ou c'est cher de. Fin...
Oui, et puis en plus ça se vend pas. Enfin, tu vois, c'est.
Oui, et dans l'esprit des gens, en fait, quand même. La photographie, c'est genre t'appuies sur un bouton et that's it. Ils pensent pas à la perte d'editing, ils pensent pas à la perte de réflexion, ils pensent pas à la technicité du tirage. Ils pensent pas. Tout ça, en fait, c'est tellement invisibilisé. C'est vrai que c'est normal quand tu vois de la peinture, quand tu vois de la sculpture, tu as l'image dans la tête de la personne face à son chevet, n'importe quoi. Oh my god. Comment on appelle ça son chevalet. Chevalet, merci. En plus, je suis en coloc avec ma besta, c'est une peintre, j'ai oublié le nom. Chevalet, il y a vraiment tout cet imaginaire où tu vois là. Et tu as l'esprit aussi de la pièce unique qui n'est pas reproductible. Donc, je pense que dans l'esprit des gens et même dans le milieu de l'art, tu as moins ce truc, tu vois.
Ouais,
d'ailleurs, en pensant, ça me fait penser à ça. aujourd'hui, il y a un énorme engouement pour la 3D. Et je suis en train de me poser la question si finalement aussi il y a cet engouement parce que tout le monde aujourd'hui n'est pas capable de faire la 3D. Bon, ça se démocratise, mais ça quand même demande une vraie technicité. Et du coup, c'est peut-être plus impressionnant dans l'esprit des gens de faire de la 3D que faire de la photo.
Ouais, je pense que t'as pas tort. Et en même temps, j'ai l'impression que la 3D, visuellement, ce que les artistes ont réussi à créer avec ces dernières années, c'est tellement... je sais pas si on peut dire genre différent de ce qu'on a pu voir avant. Et je pense que du coup, ça joue aussi avec cet engouement. Et vu que c'est compliqué et qu'on comprend pas comment ça marche, même aujourd'hui, je comprends toujours pas comment ça marche parce que j'ai jamais essayé de comprendre. Ça... Ouais, je pense que ça joue très clairement. Et les trucs des AI aussi, là.
Ah oui, oui.
En ce moment, genre, oui. Je vois que ça partout.
Mais ça, je trouve que c'est ouf comme pratique. Mm. Plus de laisser une machine produire une image. Et ça me fait penser à un artiste qui a fait le NSP aussi, qui s'appelle François Abelabas. Que tout son travail est lié sur comment une machine peut faire une image. Mm. Par elle-même à partir d'une base de données. Et moi, ça, je trouve ça plus poétique parce qu'il y a vraiment ce truc de faire confiance à la machine et du coup de humaniser la machine. Mmh. Alors que je trouve que faire de la 3D, en tout cas, il n'y a pas ce rapport-là de humaniser une machine. Non, c'est un outil qui permet de réaliser tous tes fantasmes. Et j'ai envie de parler de ça parce que je trouve que c'est incroyable la 3D, je trouve que c'est génial parce que ça a permis justement de réaliser ses fantasmes, de s'extraire de la réalité. Et ça questionne du coup, ça questionne des choses qui se passent par la 3D dans la réalité ou de besoins. Mais moi, je n'ai pas du tout envie d'être dans là-dedans. Parce qu'aussi, le monde, c'est la merde. C'est carrément la fucking merde.
Oui.
Et la 3D aussi, on s'évade. Mmh. On s'évade. Et je parle de Lady Gaga, par exemple, avec son album Chromatica, qui est l'album pop où c'est une planète, où il n'y a que la gentillesse, etc. Machin, c'est Punk is the new kind, un truc comme ça. En fait, moi, j'ai envie de travailler sur le réel.
Ouais.
J'ai envie de... J'aime montrer des choses qui peuvent paraître tristes, désastreuses, et les rendre poétiques et belles. Mmh. Et où j'aime un peu remuer la merde et la rendre pop. Je pense que j'ai repensé à ça, justement, où je me demanderais si ça... J'ai jamais pensé à ça, mais si je m'inscrivais pas dans quelque chose plutôt dans le surréalisme, en fait, du coup, qui reprend des choses qui sont... un mouvement ancien de la photographie. Mmh. Et je pense que, en fait, finalement, je m'inscris un peu là-dedans.
Ouais.
Mais peut-être que je me trompe. Mais
Non, mais c'est hyper intéressant comme j'allais dire comme fil. Et en plus, ma main se prend dans le fil du micro. Mais non, c'est vraiment... c'est un champ de réflexion qui est hyper intéressant et je pense qui est grave à développer. Pour
ouais,
le coup.
Mais... Par exemple, tu vois, mes images, comment je les traite, les couleurs ne seront jamais les couleurs de la réalité. C'est toujours un petit twist léger, tu vois. Où c'est en fait plein de choses comme ça. Je retouche beaucoup mes images aussi, en fait. Mais on ne sait jamais, en fait.
Mais c'est ça, la manière dont tu arrives à faire brouiller, en fait, le spectateur devant tes images. Parce que, comme tu le disais un peu plus tôt, on ne sait jamais quelle heure de la journée on est. Je trouve, sur tes images. Ou, en tout cas, celles que j'ai vues, moi, vraiment. Il y a toujours ce truc où... On se dit, tiens, c'est... Je sais pas, en fait, t'arrives à donner une sorte d'ambiance à tes images par, je suppose, du coup, la retouche. Mais à la fois, genre, c'est tellement... ça paraît tellement léger, parce que j'ai pas l'impression que tu changes énormément de choses, même si, les photographes, ça dépend. Genre, parfois, c'est de ouf retoucher et on s'en rend jamais compte, ça dépend. Mais ouais...
En fait, détrompe-toi. Il y a des images qui vont pas beaucoup retouchées, mais certaines qui vont être énormément retouchées. Et justement, c'est ça que j'aime bien. Et je fais un lien avec la danse classique. La danse classique, quand tu regardes la danse, tu as toujours l'impression en fait, que c'est hyper simple. Alors qu'il y a une technicité folle et qu'il y a de nombre de fois de répétition du mouvement pour que ça soit à la perfection. Mmh. Je pense qu'en fait, j'ai gardé cette rigueur de la danse que j'applique. Et du coup, des fois... ça me touche ce que tu me dis parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne voient pas forcément ça. Et c'est pas grave. Et il y a d'autres personnes qui le voient ou en tout cas qui voient qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'il y a un truc qui est trop sublimé. Et je pense que c'est ça, une sublimation du réel et une sublimation de mes modèles et quelque chose lié au pouvoir, comme tu disais au début, avec des personnes fortes. En fait, moi, quand j'aime les personnes que j'aime prendre en photo. J'arrive à prendre une personne en photo quand j'arrive à capter une sorte de sensibilité et fragilité, et que cette fragilité, en fait, je veux la transformer en une force. Et pour moi, quand tu es queer, quand tu es pédé, bah, tu es tout le temps toujours agressé, tu as quelque chose, voilà, tu es féminin, donc si tu es féminin, tu es lié à la femme, donc du coup, tu es faible. Ouais. Et du coup, moi, toute l'idée, c'est de en fait, transformer cette faiblesse en une force et quelque chose qui est frontal. Donc, je suis trop content comment tu as décrit mon trait au début, parce que c'est vraiment ça que...
J'ai bien fait mon
trait. Que j'aime, j'ai envie de transmettre aux personnes. Et voilà, en fait, j'ai du mal à prendre des personnes hétérosexuelles en photo parce que en fait, j'ai du mal souvent... Alors, des mecs, pas des nanas.
Ouais.
Mais j'ai du mal à trouver, à capter cette petite fragilité. Des fois, j'y arrive. Mais des fois, tu vois, sur des gestuels, par exemple, tu vois, moi, j'aime bien justement la notion du genre, la notion du corps. En fait, ouais. Donc, quand je prends un portrait, je choisis toujours le lieu à l'avance. Donc, j'ai fait des repérages de lieux et je me dis, OK, cette personne, je sens qu'elle va aller dans ce décor-là parce que, je sais pas, la matière du béton, les couleurs vont accentuer quelque chose de sa personnalité. Et ensuite, quand je vois la personne... c'est tout un protocole en fait où on s'écrit, je lui dis écoute, je veux que tu ramènes une tenue dans laquelle tu te sens super powerful mais en même temps tu te sens confortable, parce que je veux pas non plus que tu arrives genre je me suis pimpé pour le shoot et ça ne te représente pas non plus 100%.
Ouais.
Et ensuite il y a tout un jeu de corps, donc en fait tous mes modèles sont placés par moi-même. Je fais les poses devant eux.
Oh waouh. Ah ouais, à ce point-là,
oui, parce que
scénographe quoi.
Ouais, parce que tu sais, des fois, j'ai aussi photographié beaucoup de personnes qui ne savent pas poser. Et du coup, quand on te dit « Ah, fais ci, fais ça », déjà, soit tu ne comprends pas. Mmh. Ou alors tu te dis « Putain, je vais avoir l'air complètement con. » Mmh. Et le fait que le photographe, en fait, le fasse, déjà, ça, je pense que ça un peu atténue la subordination qu'a le photographe. Donc, la hiérarchie, en fait, descend un peu. Et du coup, le fait que le modèle voit que tu le fasses, déjà, il va mieux comprendre. Et en plus, il va se dire « Parce que moi, j'ai moins bien faire la pose que la personne.
Mmh. »
C'est toujours comme ça en fait. Mais la personne va mieux la faire que moi. Mais juste qu'elle voit que j'ai un peu la ridicule, ou des fois non, j'en sais rien. Mais en fait, elle se dit OK.
Puis ça les met à l'aise en plus.
Ça met à l'aise et tu te mets, on va dire, presque au même niveau. Mmh. Même si ce n'est pas la réalité, parce que je suis quand même forcément, c'est moi qui fais l'image, je fais le cadre. Mais il y a un peu un truc de mise à niveau. Et je pense que ça aussi, c'est dans ma manière que je considère que je travaille, qui est queer, sur la relation à l'autre.
J'avais très envie qu'on parle aussi, du coup, de tes derniers projets. J'avais noté justement une installation que tu avais faite, donc je crois avec une autre personne. J'ai pas noté son nom, mais tu l'as cité tout à l'heure.
Ouais,
j'ai
mal fait ma recherche. Delphine Denereaz.
Je pense que c'est avec elle. Vous avez fait, par exemple, Plaisir d'offrir.
Ah non.
Ah non.
Waouh. Wow. L'installation des sodas.
Ouais.
Putain, j'avais oublié ça. Non, Plaisir d'offrir, c'est moi qui l'ai faite.
Ah d'accord, ok.
Ouais, qui c'était en Grèce et c'était c'est une installation qui reprend Spiral Jetty de Smithson.
Ouais.
Et en fait, c'est des bouteilles de 7-Up et avec des fleurs qui ont été ramassées, des fleurs sauvages, parce que en fait, avec le 7-Up et certaines sèves de fleurs, ça crée une réaction chimique. Et donc, l'idée c'était de jouer, donc les visiteurs viennent déposer la fleur dans le 7-Up, soit ça fait une réaction chimique, soit non.
Ah, c'est le visiteur qui dépose.
Oui, qui active l'installation.
Okay.
Et donc, soit voilà, ça, en fait, la réaction, ça mousse, quoi, ça fait une sorte d'éjaculation.
Ouais.
Et donc, voilà, ça, c'était Plaisir d'offrir. Mmh. Et après, l'autre installation que j'ai faite, une big installation, c'est avec Delphine Eneras, qui fait de la tapisserie, qui est vraiment ma besta, avec qui on a fait une installation qui s'appelle La Noce. Et qui parle de la fête pendant le confinement et d'une fête imaginée.
Je pourrais fantasmer un endroit extérieur. Enfin, moi, je fantasme sur les volcans.
Au bord d'un lac, à la lisière d'une forêt enneigée, avec un ciel dégagé et une pleine lune incroyable. Et sous acide.
Et c'est quand même une belle journée où le soleil se lève sur les montagnes et le son continue.
C'est incroyable de faire la fête là-bas parce que le soleil se lève sur la mer et c'est un spectacle incroyable et on a de la chance d'habiter à Marseille en bord de mer juste pour pouvoir faire des teufs dans ce genre de lieu parce que c'est vraiment fou.
C'est un paysage en fait, paysage festif on va dire. Et donc j'ai interviewé 10 de mes potes, dont je disais, et en fonction de tout le montage qu'on a fait, Delphine elle a fait les dessins qui avaient des extraits de dessins, des dessins qui rappellent les histoires des interviewés, enfin des potes, et du coup elle a fait une énorme tapisserie aussi d'une fresque qui fait rappel à la Renaissance. Et c'est au moment où j'ai fait Tierra Lensu parce qu'à ce moment j'étais très inspiré par la peinture de la Renaissance et notamment par Jeff Wall.
Ouais, totalement. Et du coup c'était la première fois que tu activais ton travail plus dans un, on va dire, dans une forme d'installation.
Oui.
Ok.
Ouais, c'est la première fois.
Ça t'a plu?
Ouais, j'ai grave kiffé. Mais en même temps, c'est hyper stressant toujours pour moi parce que j'ai l'impression de ne pas avoir cette légitimité. C'est con.
Ouais.
Je sais. Mais je sais pas, à l'école, on n'a pas été trop poussé à explorer d'autres médiums. À ce moment-là, en tout cas, je sais pas aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, ça a changé.
J'ai l'impression que ça évolue beaucoup.
Ouais.
J'allais parler encore d'Adrien.
Avec Adrien. Bah oui, carrément.
J'allais parler encore d'Adrien, mais bah oui. J'arrête de citer Adrien dans tous mes épisodes.
Mais non, mais c'est vrai, puisque en plus, Adrien, il fait tout un travail d'activation avec les fleurs. Et c'est vrai que c'est un des. Je pense que c'est un des premiers, après notre promo, qui a fait du taf vraiment dans l'espace, où il a créé une activation avec le visiteur, dans mes souvenirs en tout cas.
Nous parlons d'Adrien Julliard, bien sûr. Tu m'as parlé tout à l'heure aussi que tu faisais un travail d'écriture.
Ouais.
Récemment.
Ouais.
Alors... Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ouais. Alors en fait, c'est un peu paradoxal parce que écrire, pour moi, c'est une angoisse.
Pourquoi? Pas quelque chose
parce
de...
que
à l'aise?
Ouais, je suis pas à l'aise. J'arrive pas à retranscrire ma pensée, synthétiser, retranscrire ma pensée. Par contre, j'arrive à décrire des scènes à l'écrit.
Okay.
Ça, j'aime. Parce que pour moi, c'est de l'image.
Oui.
En fait.
Ouais.
Du coup, et c'est de l'image et de l'émotion. Et du coup, en fait, j'arrive à écrire, à décrire des images et à décrire des émotions que j'ai ressenties sur des scènes. Donc ça, j'arrive à écrire. Donc oui, j'ai commencé à écrire des extraits des récits qui s'inspirent de faits réels, d'autres choses imagées ou de choses de potes que j'ai rencontrées, des histoires de potes qui m'ont raconté. Mais j'ai envie de rentrer le récit dans mon travail. Je pense que j'ai déjà fait, mais...
T'as pas envie de réaliser à un moment donné?
Si, mais ça commence. Ça commence.
Si tu me dis que tu décris des scènes...
Ah, tu veux dire que je fasse les photos, par exemple, que je décris?
Non, mais que tu réalises, je sais pas, un court-métrage, un film, un truc. Bah voilà.
Mais le problème... si, mais en fait... En fait, faire un film, ça demande tellement de travail, putain. C'est genre... j'ai essayé, mais je suis pas prêt.
Ouais.
En fait, genre, tout ce travail d'écriture, ensuite de repérage, ensuite de trouver tes acteurs, ensuite de...
Mais c'est pas un peu ce que tu fais déjà par la photo?
Oui, mais c'est plus... Tu vois, en fait, c'est quand même vachement plus simple. J'ai pas besoin d'avoir une équipe qui prend du son. Ok, je pourrais faire un court-métrage vraiment en mode... Mais bon, quand même, si tu veux quelque chose, pense, il faut un minimum avoir quand même des assistants. Bon, j'ai des assistants quand je fais des commandes ou quand je fais certaines photos. Mais c'est pas pareil, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus rapide si je veux réaliser quelque chose. En tout cas, après, bon, c'est vrai qu'il y a des photos comme Jeff Wall ou des photographes qui font des big mises en scène, et là, ça quand même demande grave de temps et de main-d'œuvre.
Ouais.
Mais moi, je reste pour le moment sur un niveau qui est assez humain, enfin, en tout cas, qui est à mon niveau aussi financier, tout simplement.
Non, mais c'est bon à savoir.
Ouais.
Je le savais. Je le sentais.
Non, tu sais ce que j'ai envie de faire? C'est pas des courts-métrages.
Ah.
C'est des clips.
Oh bah oui. Mais
en fait, c'est...
est-ce que c'est pas le rêve de toute notre génération?
Je sais pas, parce que moi je regarde des clips depuis que j'ai l'âge de 16 ans, c'est vraiment la chose que je regarde le plus. L'âge de 16 ans, mais n'importe quoi, mais l'âge depuis de 10 ans.
Mais oui, j'étais là à 16 ans,
c'est n'importe quoi. Non, non, de 10 ans, mais on va dire que je pense que c'est à partir de 16 ans, 17 ans que tu peux regarder les clips sur YouTube.
Okay,
donc
oui,
du coup, pour moi c'était le rêve de pouvoir accéder à des clips et ne plus être dépendant de la télé et de voir des clips que tu n'as pas envie spécialement de voir. Mais du coup, aujourd'hui, mon réseau social préféré, c'est YouTube. Tous les matins, je regarde YouTube. Je regarde quels clips sont sortis. Et je regarde ça tout le temps.
Ok.
Et d'ailleurs, la vidéo du baiser sac de Blue, c'est une référence au clip de Demon qui m'a fasciné quand j'étais petit, où tu sais, tu as ces deux personnes qui s'embrassent pendant une minute. Et j'ai regardé ça quand j'avais 10 ans. Je pense que ça a été une révélation, mais à ce moment, je ne m'en rendais pas trop compte. Enfin, si, ça m'avait choqué à la télé. Mais ça, ça criait gay. Mais du coup, cette vidéo, elle m'est restée en tête. Mais toute là, mon existence.
Ouais.
Et c'est pour ça que j'ai réalisé cette. C'est une référence vraiment à ce clip.
On parle bien de la photo avec deux personnes qui s'embrassent au premier plan avec une voiture
de flic. Ouais. Ouais, exactement. Ce qui est en fait à la base une vidéo et ensuite j'en ai tiré une photo. Et c'est un peu mon hit maintenant.
Elle est incroyable cette photo.
Oui,
tellement mais... incroyable que j'ai une énorme question à poser là-dessus.
Ouais.
Est-ce qu'on va parler des polémiques des gens qui volent des idées photos à des plus jeunes artistes?
Je vois pas de quoi tu parles.
On se demande. Je me souviens, c'était une des premières questions. Je me suis dit, si un jour je fais un épisode avec Robin Plus, il faut qu'on parle de ça.
Ouais. Mais en fait, c'est compliqué dans la photo, ça, parce que en même temps, on peut pas. On est dans une société, on vit de l'image, on se nourrit d'images, donc on est toujours influencé. Donc, je suis pas là en mode. Enfin, moi-même, cette vidéo est tirée d'une,
ouais.
d'une vidéo iconique.
Ouais.
Sauf que moi, je le cite, ouais. en tout cas, dans ce cas-là. Et même Demon a accepté que j'utilise la vidéo. J'ai réussi à trouver le contact de Demon.
Oh, ok.
Donc, voilà. Maintenant, là, on parle plus de la mode.
Ouais.
La mode, oui, qui...
ça arrive souvent.
Mais ça arrive tout le temps.
C'est fou que la mode des grands designers, des grands bureaux de... Comment on appelle ça, les bureaux de... Les bureaux de la mode, là Je sais plus, j'ai plus le mot. Les bureaux des tendances, ces trucs comme
ah,
ça.
Ah oui, oui.
C'était genre mon métier rêvé quand j'étais gamine. Je voulais absolument faire ça sans réellement savoir ce qu'ils faisaient. Mais...
Non, en même temps, c'est compréhensible. Il y a quelque chose d'assez fascinant.
Ouais. Et du coup, le nombre de jeunes designers que je connais qui s'est fait voler des idées après genre leur premier défilé d'école ou des trucs comme
bah,
ça.
Bah ouais.
C'est d'une tristesse. Et du coup, toi, c'est un peu ce qui est arrivé avec cette image. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire?
Ouais, alors, cette image. Donc, 2022, Jacques Mus fait un défilé à Arles. On ne sait pas, en tout cas, il va faire un défilé à Arles, on ne sait pas où.
Mm-hmm.
Le bureau de com, enfin, en tout cas, son bureau, je ne sais pas, en tout cas, son équipe de com envoie un email à l'ENSP, comme ils avaient fait il y a un an, pour y chercher des jeunes photographes à shooter le défilé. Donc, ils demandaient à ce qu'on envoie le portfolio. Je rectifie, il disait pas que c'était pour photographier le défilé, il cherchait des jeunes diplômés. J'envoie mon portfolio j'apprends, je sais pas, un mois après que j'ai pas été sélectionné. Et il se passe un truc un peu obscur. Je vois, d'ailleurs, je sais même pas putain comment j'ai vu ça. Ah si, je vais donc un mois après, pardon. Je vais sur le compte le profil Instagram de Jacques Mus pour voir du coup les photos du défilé, pour voir ce qui avait été fait. Et là, je tombe. Attention, je vais sur son profil perso,
ouais.
pas sur la marque, non, sur son profil perso quoi. Je vois qu'il a posté une photo qui est sincèrement vraiment la même chose,
ouais.
sauf vraiment le même plan, la même couleur. C'est-à-dire que le niveau de la mer, la couleur du ciel un peu bleu turquoise, le cadrage, enfin tout, et deux personnes qui s'embrassent. Vraiment, mais tout est pareil, sauf que à la place d'une voiture de flic, évidemment, c'est pas Jacques Mus, en tout cas, c'est pas un créateur de mode. En même temps, j'en sais rien. Bon, bref, je vais pas divulguer mes choix sur Jacques Mus. mais c'est deux mecs qui se roulent une pelle, bouffent une glace. Et franchement, je vois ça. Et en fait, donc cette photo n'est pas pour une campagne de Jacques Mus. C'est pour une autre campagne, je ne sais pas, d'un autre photographe. Donc je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire qu'il a volé, mais il y a eu un truc chelou qui s'est passé dans le sens que je ne comprends pas. Je n'ai pas compris, en fait, comment on peut poster une image qui est exactement similaire à la mienne et que, ben, en plus, que je n'ai pas été forcément sélectionné ou que j'ai eu un contact avec eux. Ils auraient pu très bien dire « Ah, j'en sais rien
ouais. »
et qu'ils se retrouvent sur le web. Et du coup, en fait, quand j'avais posté les deux stories, la story de son post et ma story, et quand j'arrêtais pas de faire avant, après, avant, après, Mais c'était la même chose.
Vraiment, je me souviens de regarder cette story et j'étais là genre, waouh, allez, c'est reparti encore une fois.
Oui, et j'ai pas regardé. C'est vrai que j'ai pas regardé du coup. Je sais pas si la photo a été faite, ce qui est très probable aussi, hein, a pu être faite avant, ce qui pourrait être aussi totalement un hasard. Je veux dire, j'ai pas inventé un cadrage. Est-ce que un bureau tendance, parce que évidemment j'ai été contacté aussi par des gens un peu obscurs qui bossent dans la mode, genre est-ce que tu peux m'envoyer des photos parce que j'ai un rendez-vous hyper important avec un super créateur, etc. Et puis en fait tu te retrouves à envoyer des trucs et j'ai des potes qui ont été volés, donc j'ai été aussi à des, donc je suis sûr et certain même d'ailleurs que cette histoire là parce que je l'ai fait une fois, on m'a dit genre surtout ne refais pas ça, mes images elles sont tournées dans des trucs de ça c'est certain.
Ouais. C'est chiant. En fait, c'est juste, c'est chiant, c'est fatigant que ça arrive et t'as l'impression que la mode se croit tout permis là-dessus. C'est un truc de taré. Genre moi, ça m'énerve et pourtant, j'adore la mode. J'aime beaucoup ça. C'est mon premier amour de petite fille et qui m'a donné envie de faire des choses artistiques. Mais
grave. Mais c'est un
merde.
Peu.
Merde.
Ouais. Non, mais moi aussi, je trouve qu'il y a plein d'idées géniales dans la mode, mais c'est c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Un peu genre, c'est-à-dire, nous artistes, on peut être inspirés par la mode et eux s'inspirent de nous. Et en fait, le capitalisme, voilà, absorbe, enfin, en tout cas, la mode, le capital absorbe le travail d'artiste, quoi.
Ouais. C'est triste. Faut qu'on termine sur une meilleure note quand même.
Ouais.
Il est largement temps de venir à la dernière question. As-tu des conseils à donner à des jeunes étudiants, à des diplômés d'école, à des personnes qui sont justement dans ce moment que moi je suis en ce moment même, qui est d'être jeune diplômé et qui essaye de naviguer comme on peut dans le monde de l'art?
Bah, en tout cas, je sais pas si je peux dire, je peux me placer en tant que donner des conseils, mais je peux dire les erreurs que j'ai faites dans ces 3 années et que j'aurais préféré ne pas avoir faite. La première, je pense, c'est... Je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas partager cette opinion, mais de faire son travail avec ses moyens financiers. J'ai beaucoup dépensé de l'argent dans la production, de l'argent que j'avais... que je gagnais petit à petit avec des commandes, etc. Mais je galérais financièrement. Et bah, j'ai quand même vachement perdu de sous. Donc je pense que j'aurais préféré faire des choses des fois plus simples et des fois mieux les perfectionner que de commencer par des grandes ambitions, d'avoir des grandes ambitions et d'essayer de les réaliser, mais de faire quelque chose qui n'est pas forcément réussi à 100%. Donc ça, déjà, je pense vraiment suivre ses ambitions. Enfin, faire son travail en fonction de ses moyens.
Ouais.
Ensuite, ça, c'est un conseil. Franchement, c'est tellement la merde pour les artistes qu'il faut grave s'entraider. Et moi, je déteste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas envie d'aller à Paris. Alors, c'est peut-être un cliché que j'ai. Mais moi, ce que j'aime à Marseille, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un esprit de groupe entre artistes. Il y a vraiment une entraide, il y a vraiment de la collaboration, il y a vraiment de l'échange. Et je pense que ça, c'est hyper important. Pour moi, en tout cas, ça a été hyper important de toutes les rencontres d'artistes que j'ai faites, de toutes les collaborations, des échanges, de l'entraide pour écrire des dossiers, pour faire des conseils sur de la production. Enfin, tout ça, ça m'a tellement aidé. Donc, je pense de continuer à cultiver, en fait, entre nous, une entraide, quoi. Et je pense, la dernière, c'est la plus difficile. Et j'y arrive pas des fois. Mais je pense qu'il faut être patient.
Ah bah ça.
Enfin, en fait, t'as pas trop le choix. Mais je pense que je vois certains artistes, et j'ai entendu aussi des histoires de certains artistes qui ont eu un départ fulgurant. Et ça a été un peu mon cas, en fait, au final. Où, en fait, c'était dingue. Mais ça a fait peur aussi parce que, du coup, tu as une pression qui est hyper élevée dès le début et tu dois maintenir quelque chose. Et en fait, d'un coup, tu es un peu dans le feu des projecteurs. Et on te fétichise et on est là genre machin. Mais toi, en fait, t'es pas du tout à ce niveau-là. En fait, toi, tu te sens comme une petite chose fragile. Mais en même temps, il faut que tu fasses face à des gens, en fait, avoir une certaine confiance. Mais en fait, tu te sens pas bien. Et je pense que ça, il y a un moment. Bah, franchement, 2022, ça a été vraiment dur pour moi. Parce que je me suis senti vraiment seul et je me suis senti vraiment perdu. Et j'avais peur, je me disais, je vais pas refaire cette vidéo iconique, ce truc, machin. Mais parce qu'à ce moment, quand je faisais ça, en fait, j'en avais rien à foutre. Je suivais mon instinct, etc. Et je me posais pas ces questions-là. Et là, d'un coup, quand j'ai eu tout ça qui est arrivé, je me suis dit, ok, en fait, ok, je vais pas y arriver. Et je pense, du coup, je me suis dit, il faut que je sois patient, il faut que je prenne le temps. Malheureusement, ça coûte de l'argent. Du coup, tu fais des jobs à côté, c'est dur. Mais j'espère, et on me l'a déjà dit des collectionneurs, etc., que je pense que ça paye plus, peut-être plus tard,
ouais.
Mais de construire son identité dans son temps et ne pas suivre la société et la société de l'image de Instagram, les réseaux sociaux, comme quelque chose où tu dois toujours être au top partout, être partout. Parce qu'en fait, on est tous avec notre pauvre Instagram. Moi aussi, je fais partie de ça, je monte mes plus belles images. Mais putain, mais en fait, j'ai fait tellement d'images moches. Je suis tellement dans la merde des fois au fond de mon lit où je suis là, genre encore avant-hier, mais genre. Avant-hier, j'étais là, mais j'étais là, je vais arrêter, en fait. Je vais remonter dès que t'es au fond de ton lit, t'es là, tu tapes l'URSSAF, tu fais un job de merde, et t'es là, genre...
Ouais.
Et tu sais, on te dit, genre, non, mais c'est trop bien ce que tu fais, mais tu sais, t'y crois pas, t'es là, ouais, c'est ça, merci, ouais, c'est gentil, tu vois. Mais bon, il y a toujours encore cette étincelle où je me dis, non, et je pense qu'il faut prendre son temps. En tout cas, voilà.
Non, mais c'est bien, et en fait ça... Je trouve que ça relie, en fait, moi, mon conseil que je donne en général aux gens quand ils me le demandent, c'est en fait, il faut être honnête dans son travail. Il faut être honnête avec soi-même, avec les autres et avec son travail. Et pour moi, genre, quand t'es honnête dans ces trois catégories, je vois pas comment ça ne peut pas fonctionner, enfin, ou ne pas réussir à toucher des personnes. Parce que si toi, ça te touche, ça touchera forcément quelqu'un parce que on n'est pas tant unique que ça, quoi.
Genre, bah non, de ouf, mais tellement pas.
Les émotions, ça se partage. Et je me dis que si juste on arrêtait tous de se mettre genre des voiles là devant nos yeux et des putains de masques, merde.
Mais grave.
Ça fonctionnerait.
Je suis d'accord avec toi.
Donc voilà. Et bah, sur ce, j'ai envie de dire merci, Robin.
Merci,
Robin. C'était un super épisode. J'étais trop contente de faire ça avec toi.
Moi aussi, je me sentis hyper à l'aise alors que j'étais hyper stressée.
J'attends. Bon, bah, à la prochaine.
Ouais, à la prochaine.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Robin Plus d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de me diffuser. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les sons qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Châtelain d'avoir produit mon générique. À bientôt pour un prochain épisode.